Bonjour et merci de me donner l'occasion de clôturer ou d'ouvrir peut-être un petit peu le débat sur cette riche journée. Bien évidemment, le titre qui m'avait été donné était bien trop vaste, hein, éthique de la santé, c'était beaucoup trop vaste, donc je me suis limitée à la question de l'éthique des données personnelles utilisées en santé. Alors, quelques mots de là où je viens, ce qui éclairera en fait la façon dont sera réalisée cette présentation. Je suis donc juriste, je travaille actuellement dans une équipe qui se situe à l'Université du Mirail, donc en sciences humaines et sociales, et j'ai travaillé pendant longtemps et je suis toujours chercheur associé dans une équipe de l'INSERM où je fais de la bioéthique. Donc ce qui m'a intéressé dans ce sujet, c'était de voir les ponts que l'on pouvait faire. Justement entre les différents domaines dans lesquels on pouvait recueillir des données de santé. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé du soin. Enfin, en tout cas, j'étais là cet après-midi, donc j'ai beaucoup entendu parler de données recueillies dans le contexte du soin. Il faut savoir que ces données de santé, elles sont recueillies également ailleurs, et notamment dans le contexte de la recherche. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est finalement comment on arrive à caractériser ces données sur le plan juridique. Est-ce qu'on essaye de le faire? Est-ce qu'on peut? Et puis, deuxièmement, de voir jusqu'à quel point, quelles sont les limites justement de ce cadre juridique et finalement, quelles sont les valeurs éthiques qui sont interrogées dans le cadre de l'utilisation de ces données en santé. Alors, bien évidemment, tous les mots ici de ce titre ont de l'importance, la notion de données personnelles plus particulièrement, et nous y reviendrons. Alors, avant tout, on va essayer de voir où nous en sommes en termes de contexte. Et les données de santé, je viens de le dire il y a quelques minutes, sont recueillies dans différents contextes. Et pour nous, les juristes, en tout cas, et j'imagine que pour ceux aussi qui utilisent des données, c'est extrêmement important de bien identifier le contexte dans lequel ces données sont recueillies, parce qu'en fait, les cadres juridiques qui dirigent l'utilisation, le stockage et également la distribution de ces données est très différent selon que ces données sont recueillies dans le cadre du soin, dans le cadre médical, du suivi médical, dans le cadre de la recherche ou encore quand on va faire du recueil épidémiologique dans le cadre de l'utilisation de registres. La première chose qu'il faut savoir concernant les données de santé, c'est qu'elles sont considérées comme particulières. Elles sont considérées comme particulières pour deux raisons que l'on va essayer d'expliciter. C'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation. Tout d'abord parce qu'elles sont identifiantes, donc elles révèlent l'identité d'une personne, et donc ce qui veut dire que ces personnes ont leur mot à dire sur l'utilisation de ces données, qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi et n'importe comment. Deuxièmement, bien évidemment, il y a des problèmes qui sont liés au mésusage de l'utilisation de ces données de santé, et notamment au fait qu'elles pourraient être utilisées à des effets de discrimination, c'est-à-dire cette personne, elle a telles caractéristiques qui sont liées à son état de santé, et bien finalement, on ne pourra pas l'employer ou on va peut-être lui causer quelques difficultés pour qu'elle soit assurée, etc., etc. Donc, ces deux critères, ces deux caractéristiques font, pardon, que bien évidemment, ces données sont considérées comme particulières. D'un autre côté, ça, c'est le côté très protecteur, on va dire, des données de santé. D'un autre côté, on sait qu'elles sont absolument nécessaires et qu'elles sont de plus en plus utilisées dans le contexte médical. On ne peut pas faire autrement que de soigner des gens avec leurs données de santé. Et également dans le domaine de la recherche, et on verra tout à l'heure, surtout dans le domaine de la recherche, ce qui pose des questions, c'est le fait que ces données sont recueillies en masse, en très grande quantité, et également qu'elles peuvent être très facilement aujourd'hui échangées. Bien sûr, tout ça est associé à du progrès technologique que j'aurais bien du mal, moi, à vous décrire. C'est plutôt vous les spécialistes de ça, mais j'ai bien compris qu'on le faisait de mieux en mieux, c'est-à-dire de stocker des données dans des fichiers informatisés. On le fait de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Et donc, on voit bien qu'il y a un espace là que la technologie utilise pour permettre justement le développement de ces fichiers. Cependant, déjà d'emblée, là aussi, on a quelques principes qui balisent ce recueil de données et leur utilisation. D'une part, on a le secret professionnel. Alors ça, c'est tout à fait vrai dans le domaine du soin. Et également, un principe fondateur, en fait, dans le domaine de la protection des données, c'est la question de la protection de la vie privée, puisque ces données sont d'emblée considérées comme étant relatives à l'intimité des personnes. Donc, ce sont des données, si vous voulez, qui prolongent la personne et qui prolonge les individus. Et elles sont donc considérées comme étant le prolongement de cette personne, et cette personne a donc des droits comme on a des droits sur notre corps, on a des droits également sur ces données. On le verra également tout à l'heure, pour essayer de complexifier un petit peu les questions qu'on va se poser aujourd'hui, il y a aussi la question des données génétiques. Alors celles-ci, elles sont encore plus particulières, et on essaiera de comprendre pourquoi, et on essaiera aussi de voir si c'est justifié ou pas. Je vous ai mis ici un schéma qui est beaucoup plus vaste que ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est un rapport qui a été rendu par le comité d'éthique du CNRS, donc que vous pouvez trouver très facilement sur Internet en 2009, et qui s'intitule « Pour une éthique de la recherche en sciences et technologies de l'information et de la communication », et dans lequel vous trouverez des choses qui sont bien au-delà de questions qui sont liées à la santé, qui sont celles que nous regardons aujourd'hui. Mais on va le voir, c'était juste pour vous donner un aperçu, une overview, de toutes les questions qui peuvent se poser dans votre domaine. Et nous, on va voir vraiment un tout petit bout. Et je dirais que finalement, ce qui va nous occuper, c'est ce qui est au centre, c'est-à-dire la personne. Quelles sont les dimensions éthiques que nous allons essayer d'aborder ensemble? Trois points. Le premier, comme toujours, je dirais, pour les juristes, c'est les questions de définition et de nature de ces données de santé. Et nous allons voir quelles questions éthiques cela pose. Nous verrons un deuxième point traitant du traitement informatisé des données de santé, ce traitement disposant aussi d'une définition juridique. Et puis, nous parlerons enfin de ce qui, à mon sens, pose les plus grandes questions sur le plan juridique, mais on va voir, on n'a pas tellement de solutions, donc finalement sur le plan éthique, c'est la question de la circulation des données de santé. Donc le premier point sur la définition et la nature de ces données, on n'a pas de définition de ce que sont véritablement, on n'a pas de définition en droit de ce que sont les données de santé. Il n'y a pas, quelque part, dans un code, un endroit où on pourrait dire « Ah ben voilà, c'est ça la donnée de santé ». Alors il y a plutôt un tas de textes, je vous épargne toutes les références, qui, de temps en temps, font référence aux données de santé sans véritablement les expliciter. Nous, on sait que ce sont des données personnelles. Alors là, on a une définition, on a une belle définition de la loi informatique et liberté, qui a été révisée, notamment en 2004, et donc constitue une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement. Et c'est ça qui est important, c'est le directement ou indirectement. Une donnée personnelle, c'est tout élément, alors ça peut être le nom, alors là pour le coup bien sûr c'est identifiant, mais ça peut être également un code, ça peut être une image, ça peut être du son. C'est tout ce qui peut identifier de façon directe ou indirecte une personne. Et quand on peut qualifier cette information de données personnelles, à ce moment-là, elle tombe sous le coup de la loi informatique et liberté, avec toutes les procédures qu'il faut respecter pour la création et l'utilisation des fichiers de ces données dites donc personnelles. A contrario, juste pour être clair, qu'est-ce qu'on oppose à cette notion de données personnelles? Ce sont les données anonymes. Mais quand je dis anonyme, c'est totalement anonyme. Ce n'est pas anonymisé. Quand elles ont un code, elles sont considérées comme personnelles. Alors vous voyez, ce n'est pas simple, parce que pour nous, par exemple, qui ne sommes pas des spécialistes de toutes ces questions, on a besoin aussi de se nourrir de vos connaissances. Autre caractéristique de ces données, donc on n'a pas de définition, on a vu qu'elles étaient personnelles, on sait aussi également qu'elles sont sensibles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible? Ça nous vient d'une directive de l'Union européenne. Dans le texte de la loi informatique et liberté français, dans le texte français, c'est un peu moins bien décrit que dans le texte de la directive. Ces informations sensibles, ce sont toutes les informations qui sont listées ici, c'est-à-dire les informations qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, celles qui sont relatives à la santé, à la vie sexuelle de ces personnes. Donc toutes ces informations-là sont considérées par le droit français comme des informations sensibles. Et adossées à cette notion de sensibilité, eh bien, on a une interdiction de traitement de principe. Donc ça veut dire que si on est face à une de ces données, on n'a pas le droit de faire de fichiers informatisés. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas possible. Mais vous savez, le droit aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire poser des grands principes, et puis, tout de suite après, énoncer une série d'exceptions. Alors bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'a pas le droit de traiter des informations de santé. Bien sûr qu'on a le droit, mais à certaines conditions, c'est-à-dire surtout, il faut que ça remplisse un certain nombre d'objectifs. Et quels sont les objectifs qui peuvent être poursuivis? C'est-à-dire quand est-ce qu'on a le droit de traiter ces informations de santé ? Tout d'abord, quand on doit faire du diagnostic, ça paraît juste évident, parce que je ne vois pas très bien comment on ferait si on ne pouvait pas avoir accès à ces données. Et puis également, encore une fois, on le voit, on a tout un chapitre de la loi informatique et liberté qui permet l'utilisation de ces données de santé dans le contexte de la recherche. Alors, ça fait déjà deux fois, en fait, que je mentionne le distinguo entre soins et recherche. Et vous verrez qu'on a longtemps opposé ces deux domaines, sur le plan juridique au sens large. Et puis finalement, concernant les données, les questionnements ont tendance à se rapprocher, même si finalement elles relèvent de régimes un peu différents. Et donc on verra systématiquement les données qui sont recueillies dans le cadre du soin et puis celles qui sont recueillies dans le contexte de la recherche. Alors ça, c'est une définition que j'ai emprunté et que j'ai mixé avec d'autres auteurs, donc on ne retrouve dans aucun texte de droit, mais on peut dire que les données de santé peuvent se définir comme des données qui caractérisent l'état de santé physique ou mentale d'une personne, y compris ses données génétiques, point d'interrogation. Parce que alors, cette question n'est absolument pas réglée. On a des textes qui, dans d'autres pays européens, disent les données génétiques, y compris... les données de santé, y compris les données génétiques. Donc c'est clairement mentionné. Nous, on n'a pas un tel niveau et un tel degré de précision. Dans notre loi, on a plus précisément la question de la sensibilité. Donc les caractéristiques génétiques et les données génétiques sont clairement considérées comme sensibles parmi les données sensibles. C'est-à-dire qu'elles sont encore plus sensibles que les données de santé. Pourquoi ? Alors, on pourrait discuter du bien fondé de ce traitement particulier. Pourquoi ? D'abord parce qu'elles ont un impact intrafamilial. Donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un impact direct sur des tiers et sur des membres de la famille. Donc, elles sont considérées comme particulières au regard des autres données biologiques. Et puis, deuxième critère qui permet de dire qu'elles sont sensibles parmi les données sensibles, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire leur potentiel mésusage par des tiers. La loi informatique et liberté considère ces données comme étant des données biologiques identifiantes. Ce qui veut dire que, clairement, quel est le degré supplémentaire de protection qui est octroyé par la loi ? C'est le degré de maîtrise des individus sur ces données génétiques. Pour les données de santé, quand nous allons, chacun d'entre nous, chez notre médecin, on ne donne pas notre consentement express. On ne donne pas de consentement écrit. Excepté certaines situations très particulières, quand on sait, alors normalement, vous savez, on doit être informé que notre dossier médical est informatisé. Cette information doit figurer dans tous les cabinets médicaux. Mais cette information suffit. Et cette information est nécessaire, mais suffisante. Dans le cadre des données génétiques, cette information-là n'est pas suffisante. Si on doit faire un traitement de données génétiques, c'est-à-dire qu'on doit informatiser des données génétiques, il faut un consentement express, au sens de la loi, ça veut dire un consentement écrit, pour recueillir ces données. Alors, je vous le disais, on peut se poser la question du bien fondé de cette approche. En l'occurrence, je ne suis pas sûre que ça change dans les mois qui viennent, et on est plutôt encore dans une approche très protectrice des données génétiques et de leur traitement. Alors, nous allons voir justement maintenant la question du traitement informatisé des données de santé. Et là, en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est un panorama assez large des questions qui se posent sur le traitement lui-même. C'est-à-dire, une fois qu'on a recueilli ces données, comment on les stocke, comment on les utilise. Et là aussi, finalement, c'était assez clair qu'il y avait vraiment deux façons de faire qui étaient assez différentes. D'une part, dans le domaine du soin, et d'autre part, dans le domaine de la recherche. Alors, dans le domaine du soin, bien évidemment, comment on va recueillir des données de santé ? C'est dans le contexte du dossier médical. Alors, j'imagine que vous avez déjà parlé du dossier médical personnalisé, personnel. Mais bien avant, en fait, la mise en œuvre de ce type de dossier, les dossiers individuels étaient déjà informatisés. Et on ne pouvait pas recueillir ces données n'importe comment et... comme ça, sans aucune règle juridique, et même sans aucune approche éthique. Clairement, c'est un outil de la prise en charge médicale qui est globalement informatisé, qui doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL. Toutes les informations qui sont recueillies, d'une manière ou d'une autre, sont couvertes par le secret. Ce qui veut dire qu'il y a une obligation de confidentialité qui est attachée à ces données, médicales. Et là, on n'est même pas encore dans le contexte du dossier médical personnel. On parle du dossier médical lambda. Cette obligation de confidentialité, elle concerne autant les aspects administratifs que les aspects médicaux. Ça veut dire surtout que si c'est couvert par le secret professionnel, on ne peut pas divulguer ces informations à des tiers qui ne sont pas autorisés à les recevoir. Donc vraiment, la question de la confidentialité, c'est une question qui est majeure dans la gestion du dossier médical. On ne parle pas encore là aussi du dossier médical personnel. Dans le contexte du dossier médical personnel, bien évidemment, ce que l'on vise très clairement, c'est le partage de ces données. Et l'idée derrière ça, c'est bien évidemment d'améliorer la qualité des soins et d'améliorer également la continuité des soins. Ce qui veut dire qu'en gros, on a des outils technologiques qui aujourd'hui nous permettent de mutualiser des informations de santé qui certes sont confidentielles, d'accord, et doivent continuer à rester confidentielles, mais que l'on pourrait imaginer, et que l'on imagine très bien, être partagées finalement entre plusieurs professionnels de santé, notamment ne serait-ce que pour assurer la continuité des soins et sa qualité. Donc le cercle des gens qui sont capables, dont on pense qu'ils ont l'aptitude de partager ces données, est élargi. Sauf que, au-delà de ce cercle, il faut là aussi encore garantir la confidentialité. Donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces données de santé. Et notamment, je vous donne un exemple très simple, le secret professionnel est opposable aux membres de la famille. En général, hein, bien évidemment, là aussi, il y a tout un tas d'exceptions. Hein, les mineurs, les personnes qui ne peuvent plus elles-mêmes recevoir cette information. Mais globalement, on va dire que nous tous ici, lorsque nous consultons, ces informations sont confidentielles vis-à-vis des autres membres de notre famille. Donc, on le voit, au nom, en fait, de la qualité des soins et de la continuité des soins, on peut assouplir ce principe de la confidentialité, mais par contre, cet assouplissement, bien évidemment, a des limites, parce que ces informations continuent à rester confidentielles. Elles ne changent pas de nature. Hein, elles continuent à rester confidentielles. Ce que l'on a trouvé donc dans le niveau de complexité supérieur qui va se mettre en place avec le dossier médical personnel, hein, puisque là, maintenant, vraiment, la machine est relancée, c'est non pas tellement ce cercle, c'est finalement qui peut maîtriser les informations qui sont dans ce dossier. Et le législateur a, là aussi, je pense, vraiment plus insisté sur des fondements éthiques, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la technique juridique lambda, mais il y avait aussi le fait que, depuis un certain nombre d'années, l'autonomie des patients est fortement ancrée dans le droit, et tout ça vient véritablement d'une approche éthique. Et sur cette notion de l'autonomie, eh bien, ce que l'on a souhaité mettre en place, c'est la capacité pour le patient de maîtriser les informations qui seront dans ce dossier. Donc, cette capacité de maîtrise, elle passe bien obligatoirement par le consentement. Consentement, bien sûr, principe éminemment éthique, et qui est le seul, enfin, moi je pense que c'est encore un des piliers qu'il faut défendre, en tout cas, qui reste le seul à pouvoir garantir que, non seulement les informations qui seront mises dans ce dossier médical, qui sera donc partagé, le seront avec l'accord du patient, parce que, je vous rappelle, ce sont nos données, mais également c'est l'accès à ce dossier médical personnel qui requerra le consentement du patient. Donc on le voit, véritablement un impact en fait de l'approche éthique du consentement, y compris dans la maîtrise de ce nouvel outil que sera le dossier médical personnel. Alors, dans la recherche, c'est un peu différent, parce que là aussi, les règles de droit et puis les approches et les questions qui se posent sont un peu différentes. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la recherche? On fait du recueil de données. On fait de la recherche biomédicale, hein, je prends le cas le plus simple. On fait du recueil de données. On fait du recueil de données parce qu'on expérimente un nouveau médicament, par exemple. Pour faire ça, aujourd'hui, on ne fait plus de recueil manuel ou très peu. On le fait à travers des outils informatisés, et notamment, je vous en ai mis un ici, qui est ce qu'on appelle le CRF, c'est-à-dire ce qui permet, notamment à l'attaché de recherche clinique, de faire le recueil de données qui va servir justement à l'exploitation ensuite des résultats de cette recherche. Ces outils, l'objectif de ces outils, c'est que la plupart du temps, on fait de moins en moins maintenant notre recherche chacun dans son coin. Donc il y a plusieurs équipes de recherche qui vont mutualiser ce recueil de données, le standardiser, et qui vont créer des bases de données. Et l'objectif et l'enjeu, là, puisque c'est l'objectif même de la recherche, c'est de partager ces données et de les mettre ensemble. Là aussi, ça pose des questions qui sont éminemment éthiques, qui sont liées justement au fait de savoir si les patients sont au courant que ça va se passer comme ça, si les sujets de la recherche vont savoir que ça va se passer comme ça, si les fichiers ont fait l'objet d'une autorisation à la CNIL ou pas, etc., etc. Et pour tout ça, je vous rassure, il y a quand même tout un tas de procédures qui permettent de garantir que les règles de l'art ont bien été suivies et que notamment les personnes qui se sont engagées dans la recherche, c'est-à-dire les sujets de la recherche, sont au courant du devenir de leurs données. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'agence de régulation, donc l'agence des systèmes d'information partagée de santé, parce que vous avez une présentation demain par un de ses membres donc, qui vous en parlera de façon plus pointue. La seule chose sur laquelle je voulais revenir concernant la création de cette agence, ce n'est pas tellement ses missions, parce que clairement c'est sur notamment le déploiement du dossier médical personnel, mais c'est surtout qu'ils ont mis, en tout cas c'est l'affichage qu'ils ont, ils ont mis le respect des droits des patients au cœur en fait, de la démarche de ce système d'information. Et ils ont une formule qui est que le respect des droits des patients se fait parce que les patients sont acteurs de leur santé. Et derrière cette formule, la notion d'être acteur de sa santé, il y a aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, cette volonté de rétablir l'équilibre, de rétablir la maîtrise des personnes, des individus, sur leurs données, donc sur leur recueil et également sur leur utilisation. À mon sens, ce qui pose aujourd'hui les plus grandes questions, la circulation des données de santé. Alors, comment ça circule ? En gros, ça circule entre les professionnels de santé, on l'a vu, hein, on est obligé de se partager des informations si on veut bien traiter ses patients, et puis ça circule entre chercheurs. Ça, c'est la formule simple de la circulation. Et la formule simple, c'est aussi quand tout ça se passe sur un même territoire, c'est-à-dire, on va dire, en France. Bon, alors là, ça se passe très bien parce que les règles sont claires, les règles juridiques sont claires et nous avons tout un tas de références qui nous permettent de gérer ce sens de la circulation. Sauf qu'aujourd'hui, on fait de moins en moins ça. On le sait, les compétences médicales peuvent se trouver à l'extérieur. Les recherches se font la plupart du temps de manière internationale. Et donc, là, se pose la question de savoir comment on gère la question des aspects éthiques et des aspects juridiques de données qui vont circuler en dehors de la France. Alors ça, c'est pas très simple. Alors en Europe, encore, je dirais que ça va à peu près, parce que nous avons une directive. Alors j'imagine que vous la connaissez, c'est la directive de 95 sur les données personnelles. Je vous signale que cette directive est actuellement en cours de révision, parce qu'elle est finalement assez ancienne, notamment au regard des technologies qui sont apparues et aux capacités d'échange. Et puis, degré supplémentaire, quand on fait ça au niveau international. Alors là, pour le coup, au niveau international, on a très peu de références de comment on échange ces données, comment on les protège et comment on les fait circuler. Parce que finalement, les personnes ont de moins, si vous voulez, il y a une dilution de leur lien avec ces données. Plus elles sont échangées, moins ils en ont la maîtrise. Donc ce que l'on considérait au départ comme extrêmement protecteur sur le plan juridique et aussi sur le plan éthique, c'est-à-dire la capacité pour les individus de maîtriser ces données, se dilue de par la distance géographique. Et puis on a un deuxième problème, qui est un problème extrêmement sérieux pour nous, juristes, c'est que le droit est d'application territoriale. Là, avec la question des données en santé et la question de leurs échanges, on n'est plus dans la territorialité. C'est-à-dire qu'on est dans une approche totalement immatérielle. Et le droit a beaucoup de mal à saisir des relations immatérielles. Donc, vous le voyez, on est vraiment dans un domaine où finalement, notamment au niveau international, ce sont plutôt les références éthiques qui prennent le pas et qui vont donner un certain nombre de références pour pouvoir utiliser ces données. Alors, on a quelques éléments qui nous permettent, d'une part, la notion de protection équivalente, ça c'est ce qu'on trouve en droit européen, et puis pour les autres pays, en gros, si on veut échanger avec les États-Unis, il faut qu'on soit sûr qu'ils aient ce qu'on appelle une protection adéquate. Et ça, c'est la CNIL qui va l'évaluer. Donc sur le site de la CNIL, vous avez une liste de pays pour lesquels la législation est considérée comme suffisamment protectrice, notamment au regard du droit des personnes. Et donc, vous pouvez échanger avec ces pays en toute sérénité, puisque leur niveau de protection est considéré comme adéquat. Dernier point, c'est quoi l'objectif de cette circulation? C'est ce qu'on va trouver, et ce qu'on trouve de plus en plus, sous une terminologie anglaise qui s'appelle le data sharing, c'est-à-dire le fait de partager des données. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le domaine de la recherche, c'est quelque chose qui est extrêmement encouragé, partager des données, parce que ça fera progresser la science. Et parce que c'est grâce à un certain volume de données que l'on pourra faire de la bonne science et qu'on aura de bons résultats. On a exactement la même chose du côté du soin, hein, puisque on continue à dire que finalement, plus on échange, meilleure est la prise en charge du patient. Sauf que tout ça, ça pose tout un tas de questions éthiques, notamment qui relèvent de la balance enjeux individuels, protection des individus, bénéfices sociétal. Autre question éthique extrêmement importante qui sont liées à la mise à disposition des données, est-ce qu'on peut le faire n'importe comment, le respect du consentement initial qui a été donné, et puis ce que j'ai appelé moi les enjeux éthiques descendants, c'est-à-dire qu'est-ce que les personnes peuvent attendre de ces grands regroupements de données, est-ce qu'on doit leur donner des résultats, est-ce que si on trouve quelque chose de particulier dans ces données de santé, on doit le leur dire, et comment. Toutes ces questions, elles sont plus ou moins résolues. Et elles sont, je dirais, presque plus ou moins résolues par la pratique, pas tellement par le droit. Elles sont résolues par la pratique et par l'éthique. Alors, bien sûr, on aura des enjeux en perspective. Alors, en regardant les présentations de cet après-midi, je me suis dit qu'on avait du travail, hein, parce qu'on a des enjeux techniques et toutes les techniques qui sont mises au point, bien sûr, vont soulever des enjeux qui sont grandissants. J'en ai mis un certain nombre ici sur la création des bases de données, la question de l'interopérabilité, quelqu'un en a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis surtout, moi, quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est de savoir quelles solutions vous me proposez ou vous nous proposez pour la protection de la confidentialité. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça marche? Je ne sais pas répondre à cette question. Et puis, accompagner ce saut et ce bond technologique, pour moi, il est obligatoire, il me semble en tout cas tout à fait raisonnable, de penser qu'il doit être aussi accompagné d'un certain nombre de réflexions éthiques. Et ces réflexions éthiques, elles ne doivent pas intervenir après coup. C'est pour ça que j'ai appelé ça un peu le phénomène de la co-construction, c'est-à-dire qu'il me semble que je serais contente que vous me disiez « Bon, ben voilà, on développe tel et tel type de technologie. Finalement, est-ce que vous pensez que ça soulève des questions éthiques ?» Et je crois que c'est au départ, dès le départ, qu'il faut se poser les questions. Mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à se comprendre également. Et ensuite, il y a bien sûr tout ce qu'on peut mettre en place au sein des projets, hein, notamment des projets de recherche, avec ce qu'on appelle les Data Access Committee ou les Data Access Officers, qui permettent de garantir une certaine gouvernance dans la protection des données. Je vous remercie.